Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Michèle Leduc, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes physicienne, directrice de recherche émérite au CNRS, directrice de l'IFRAF, l'Institut francilien de recherche sur les atomes froids à l'École normale supérieure, et présidente du COMETS, le comité d'éthique du CNRS. Vous êtes également membre de l'Union rationaliste. Je vous avais invitée avec Hélène Langevin en février 2010 à l'antenne de l'Union rationaliste pour évoquer le prix Jean Perrin qui venait d'être attribué au Palais de la Découverte par la Société française de physique dont vous étiez la présidente. Les menaces qui pesaient alors sur le palais étaient grandes et peut-être avant d'en venir aux questions qui vont nous occuper ce matin sur l'éthique en science et la question des conduites peu intègres, il serait bon de faire pour nos auditeurs un bilan de ce qui s'est joué depuis 4 ans après la fusion entre la Cité des sciences et le Palais de la Découverte.
Écoutez, très volontiers, je suis toujours très intéressée à suivre ce qui arrive au Palais de la Découverte, comme beaucoup de physiciens qui adorent emmener leurs enfants, leurs petits-enfants, voir toutes les expositions nouvelles et les fonds permanents. Mais je dois dire que les soucis avec le Palais de la Découverte perdurent. En effet, ce Palais de la Découverte est entièrement sous... la responsabilité d'Universcience, donc la Cité des sciences qui a une vocation tout de même un peu différente. Il n'a pas de directeur scientifique propre, il n'a pas d'administration propre. Et donc beaucoup d'amis du palais continuent à se préoccuper de cette affaire. Donc cette préoccupation est maintenant moins grande parce qu'on vient de créer le COPAD, c'est-à-dire le comité d'orientation du Palais de la Découverte, dans lequel quelques scientifiques de différentes disciplines siègent et discutent pour voir comment le futur Palais de la Découverte pourra être orienté, puisque, comme vous savez, il va être rénové complètement dans le cadre du Grand Palais. Non, il va faire partie de la rénovation du Grand Palais. Et donc, il faut voir comment, dans cette rénovation, l'esprit du Palais de la Découverte va être prolongé en intégrant la science qui se fait et la science près de la recherche qu'on montre au public.
C'est donc une affaire que, à l'Union rationaliste, nous allons continuer de suivre pour voir si...
Écoutez, très volontiers, j'ai été par chance nommée dans ce COPAD, dans ce comité, et je pourrais vous tenir au courant. Et j'aimerais bien aussi avoir l'idée que se fait l'Union rationaliste de la façon de présenter les sciences au public, aux jeunes bien sûr, qui ont beaucoup besoin d'être encouragés à faire des études scientifiques, et aussi au public qui est beaucoup plus curieux des sciences que ce qu'on pourrait penser.
Absolument, et le Palais de la Découverte depuis 1937.
Depuis et Jean Perrin.
Médiateur absolument indispensable. Alors, nous allons passer au but de cette émission. Vous êtes présidente du COMETS, COMETS qui existe depuis 1994. N'y a-t-il pas un paradoxe à voir un comité d'éthique au CNRS, les chercheurs ayant au fond moins que les traders ou les banquiers, la réputation d'être des gens immoraux, intéressés, vénaux, frondeurs, fraudeurs? N'y a-t-il donc pas un paradoxe à réclamer l'intégrité en science et ne risque-t-on pas, avec ce COMETS, à force de clamer l'intégrité, de sombrer dans ce que Alain Gérard Slama appelle l'angélisme exterminateur ?
Oui, je comprends ce que veut dire Monsieur Slama, mais tout de même, et je comprends que vous puissiez penser qu'il y a un paradoxe à suggérer que quand on fait de la science, on n'est pas totalement honnête. mais vous savez, la science, c'est un métier comme bien d'autres métiers et les défauts humains se retrouvent un peu partout. Ce que je veux dire, c'est qu'on entend de plus en plus, malgré tout, parler de fraude en science et que c'est... Ça ne veut pas dire que le nombre des fraudes augmente, mais ça veut dire simplement qu'on en parle davantage, c'est plus médiatisé et c'est plus dangereux pour l'opinion que se fait le public de la science. Et il serait catastrophique que la confiance du public dans ces chercheurs, qu'elle finance tout de même, soit amoindrie par ces fautes. Voilà. Et ce que je veux ajouter, c'est que tout de même, les pressions qui s'exercent sur les chercheurs dans le métier actuel sont quand même assez fortes. Et c'est un métier déjà difficile intrinsèquement et qui maintenant est rendu encore plus difficile par beaucoup de contraintes liées à la façon dont les financements arrivent ou n'arrivent pas, dont les chercheurs pour leur carrière sont évalués plus ou moins bien et comment le temps passé à la recherche diminue à cause de la nécessité de trouver de l'argent. Et donc le métier est quand même dur et surtout je pense aux enseignants-chercheurs qui en plus doivent parler aux étudiants et faire leur métier, c'est faire deux métiers à la fois, tout ça est assez lourd. Et on peut concevoir que quelques dérives, pas forcément des grosses fautes, hein, ni des grosses fraudes, comme on dit dans le langage anglo-saxon, que des dérives plus ou moins grandes se produisent dans l'exercice du métier. Je peux en donner un certain nombre d'exemples.
Oui,
c'est surtout dans les publications, dans la façon de publier les résultats qu'on peut voir des conduites inappropriées. Hein. On peut interpréter volontairement de façon fausse des données pour obtenir le résultat souhaité. On peut présenter de façon un peu intentionnelle, de façon erronée, des travaux de concurrents, ne pas bien les citer. On peut retoucher des images. On voit ça dans les sciences du vivant. On peut oublier les contributions d'autres auteurs dans les références. On peut couper ces articles en petits morceaux pour en avoir plus et être mieux évalué. On peut oublier des auteurs, ça c'est très grave, oublier le postdoc qui est parti à l'étranger et ne pas le mettre dans la publication. Ou au contraire, mettre le nom du patron qui n'a rien fait, mais pour faire bien ou pour lui faire plaisir, pour se faire bien voir. Enfin, y a mille façons d'altérer un petit peu la rectitude des publications, qui est la façon dont les résultats sont présentés au reste de la communauté scientifique et aussi public. Et puis il y a maintenant des dérives nouvelles qui apparaissent, qui sont liées aux données. Les données sont de plus en plus vastes. Hein. Vous avez les big data, vous avez différentes façons de les traiter. Il y a le crowdsourcing dont on parle beaucoup. Et le fait de ne pas ouvrir ces données va devenir maintenant une attitude répréhensible. Ne pas ouvrir ces données aux autres, à la communauté, de les garder pour soi ou de les traiter de façon non conforme ou en ne donnant pas les sources ou en n'expliquant pas les protocoles de traitement des données. Tout ça, ce sont des nouvelles questions qui interrogent beaucoup.
Oui. Alors, au fond, ce que vous décrivez, c'est tout un certain nombre de manquements déontologiques.
Oui, voilà, c'est le manquement déontologique. Mais il y a aussi d'autres manquements dont on parle moins, qui ont à voir avec la façon dont la vie sociale dans un laboratoire s'organise. Le rôle du chef d'équipe ou du patron de labo par rapport à ces jeunes, la façon dont ils le harcèlent ou le maltraitent. Et inversement, ça peut se passer aussi dans l'autre sens. Le manque de tutorat, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le patron de groupe a quand même un rôle important à jouer pour former les jeunes qui arrivent en doctorat et qui, sans transition de l'état d'étudiant à l'état de chercheur, ont besoin aussi d'être informés de tout ce qu'ils doivent faire et pas faire.
Ce qui me paraît absolument fondamental dans votre propos, Michel Leduc, et ce qui, à l'Union rationaliste, nous passionne, c'est précisément ces pressions qui pèsent sur les chercheurs et qui peuvent expliquer certaines dérives. Alors évidemment, vous l'avez dit, on pense au contexte de plus en plus compétitif de la recherche scientifique, à la nécessité pour les chercheurs de trouver des financements, à leurs évaluations qui conditionnent l'évolution de leur carrière, à l'environnement de la société qui, elle aussi, fait pression sur les chercheurs et la recherche. Pourriez-vous, Michel Leduc, nous dire comment s'articule cet état des lieux aux diverses dérives et plus largement, comment répondre à cela? Est-ce que, au fond, dans cette articulation du politique et de l'éthique, un guide comme celui que vous venez de faire paraître peut suffire? Ou est-ce que, évidemment, c'est la question des financements de la recherche qui se pose?
Là, vous dépassez, par vos questions, vous dépassez un petit peu mes compétences. Mais il est certain qu'on s'est posé la question de la formation des jeunes qui entrent dans le métier de chercheur, souvent sans transition, et aussi peut-être de la formation de ceux qui les encadrent, qui n'ont jamais entendu parler d'éthique. Il nous semble qu'on n'en parle jamais. On parle de l'hygiène et de la sécurité, on parle de toutes sortes de consignes qu'on donne aux directeurs de labo, mais on ne leur pas. Moi, j'ai été directrice de labo, et on ne m'a jamais donné des consignes de bon comportement. Donc, il y a matière à expliquer comment il faut avoir une conduite responsable et éviter ces dérives qui sont souvent insensibles. Elles ne sont pas forcément volontaires. Elles arrivent parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on ne nous a pas dit qu'il ne faut pas faire ça.
Parce qu'il y a urgence aussi à publier.
Et puis parce qu'il y a évidemment urgence à publier. Comme vous savez, c'est difficile quand on est postdoc d'obtenir un poste permanent. On vous compte le nombre de publications au lieu de regarder le contenu, souvent. Il faut en avoir un certain nombre dans des journaux prestigieux qui ne sont pas forcément les journaux les plus sérieux, etc. Et donc, nous avons pensé qu'un guide, quand même, qui détaille un peu tout ce qu'il faut éviter de faire, pourrait être utile pour les chercheurs du CNRS. Et j'ai le plaisir de voir qu'il a été approuvé par le conseil d'administration du CNRS qui va en faire un guide du CNRS. Ça, c'est déjà une petite satisfaction parce qu'il va être donné à tous les chercheurs, et pas seulement les chercheurs, et aussi tous les personnels de la recherche permanente et non permanente. Et puis peut-être il sera repris dans d'autres institutions de recherche en France.
Oui, voilà. Donc ce guide qui s'appelle le guide pour une recherche intègre et responsable vient de paraître au mois de juin.
Il vient de paraître, il va être distribué largement. Ceci dit, il ne faut pas surestimer la valeur d'un guide, parce qu'un guide, d'abord les juristes le considèrent avec un certain sourire, parce qu'un guide, ce n'est que des consignes plutôt morales qu'autre chose.
Bien sûr.
C'est comme les chartes. On fait des chartes quand on fait de l'éthique. Elles ont la valeur qu'elles ont. Et je crois que ce qui compte, en fait, plus que le guide qui aura le mérite d'exister, c'est un petit peu la conscience du chercheur face à son travail et face à la notion qu'il a de la responsabilité par rapport au public.
C'est aussi, et je l'ai évoqué tout à l'heure, les conditions matérielles de la recherche et les crédits que les chercheurs peuvent obtenir.
Oui, vous avez raison. Si on vivait plus à l'aise, si on avait plus d'argent, si on avait moins d'heures de cours, peut-être qu'on pourrait faire plus la recherche de façon plus intègre. Vous avez raison. Mais je ne crois pas que ce soit la solution, quelle que soit. Ben, là, j'aimerais beaucoup que ça devienne le cas. Mais enfin, il ne faut pas rêver. Il faut faire avec les moyens qu'on a. Et avec les moyens qu'on a, il faut faire les choses de la façon la plus honnête possible et en sachant que le public nous a fait confiance.
Michel Leduc, nous avons parlé de raisons pratiques, de morale dans ce COMETS. Comment définiriez-vous, Michel Leduc, votre rationaliste par rapport à ces exigences morales?
Moi, je dirais que je suis rationaliste parce que je crois d'une certaine façon à la science. Plus personne n'est scientiste de nos jours, depuis le siècle dernier. Mais je crois.
Il y a encore des scientistes.
Il y a encore des scientistes. Enfin, c'est pas mon cas. Mais je crois que la science a quand même encore et de nouveau toujours et toujours beaucoup à apporter à la société. Les grands défis sociétaux dont on parle beaucoup, ils ne se résoudront pas sans que la science et les experts qui peuvent apporter des indications précieuses aux politiques soient mêlés. Donc je crois qu'il faut que les scientifiques apportent une parole qui soit crédible. Il ne faut pas que ce qu'ils disent quand ils sont consultés comme experts puisse être mis en doute. Il faut qu'ils donnent des raisons, ils donnent des arguments qui soient fondés sur leur travail et sur une méthode qui est une méthode rationnelle. Je voudrais ajouter qu'on est dans une époque un peu curieuse où on voit que les gens se cultivent de toutes les façons par eux-mêmes avec Internet et ils arrivent à se convaincre de vérités qui sont très loin des vérités scientifiques. La méthode scientifique n'est pas toujours à l'œuvre et on voit des opinions qui se consolident à travers les réseaux sociaux, mais aussi des réseaux d'utilisateurs, des réseaux partisans, des réseaux militants contre certaines technologies et qui sont irrationnels et qui font beaucoup de mal à la société. Donc il faut que les scientifiques et le public qui est formé au raisonnement scientifique, et ça c'est très important de former le public au raisonnement scientifique, puissent contrer ces argumentations.
Ces dérives.
Ces dérives, voilà, ces dérives de la pensée.
C'est sur cette condamnation des dérives irrationnelles que nous allons clore cette émission. Michel Leduc, je vous remercie.
Merci beaucoup, merci Emmanuel.
Je remercie Dany Journeau et Philippe Palares qui ont rendu possible cette émission. Je rappelle le dernier numéro de Raison Présente, Genre et Santé au Travail. Et je vous souhaite un bel été. Au mois prochain.